Ce matin, on débute une série sur la croix. Puis là, je ne sais pas, je serais curieux de savoir combien est-ce qu'ils ont une croix dans le cou, même ce matin. Il y en a-tu qui ont? Ouais, il y en a quelques-uns. Bon. La croix, ça dépasse un peu l'imaginaire. Hein? C'est simple, c'est deux bouts de bois. C'est un symbole qui a traversé beaucoup d'époques. Et puis quand on y pense, il y a peut-être quelque chose de merveilleux dans le sens que c'est un symbole qui est demeuré à travers toutes les années. Tu sais, pourquoi est-ce que c'est la croix qui a été prise comme symbole du christianisme? Ça aurait pu être un poisson. Hein? Il y en a qui ont ça, les poissons, ictus. Hein, Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, c'est comme un genre d'acronyme grec. Je ne vous perdrai pas dans le grec ce matin. Vous pouvez dire merci Seigneur. OK, non. Ça aurait pu être un tombeau, le symbole du christianisme. Ça aurait pu être une colombe pour symboliser le Saint-Esprit. Ça aurait pu être une crèche pour symboliser l'incarnation. Ça aurait pu être juste un gros cœur pour symboliser l'amour de Dieu. Ça aurait pu être, je dis une genre de croix rouge, mais tu sais, on se comprend que c'est lié, mais l'idée de la quelque chose qui aurait représenté la guérison, parce que Jésus a tellement guéri et délivré. Mais c'est parce que c'est eux qui ont pris la croix parce que c'était signe de guérison. Fait que, bref, ils n'auraient pas pu prendre ça, mais en tout cas, vous comprenez? Pourquoi est-ce que c'est la croix qui a été maintenue comme symbole du christianisme? Hein? Et lorsqu'on regarde des symboles de d'autres religions, comme les Juifs, ben on voit, les Juifs, c'est quoi le symbole? C'est l'étoile de David, qui était comme l'idée de l'emblème du roi David. Il serait aussi le symbole du Messie dans la lignée du roi David. Le symbole de l'islam, un croissant avec une petite étoile. Et puis là, je n'irai pas dans toutes les explications parce qu'il y a plusieurs explications différentes de qu'est-ce que ça symbolise. Mais si on revient au christianisme, on se rend compte que pour nous, c'est sans équivoque, c'est la croix. C'est un choix surprenant. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est un choix surprenant parce que, à cause de l'horreur que ce symbole-là représentait à l'époque, pour les Romains, la croix était le supplice des supplices. C'était le pire supplice. C'était comme la chose la pire qui pouvait se passer à un homme, celle de mourir sur la croix. Donc, l'idée d'être fier de la croix, pour les Romains, c'est comme, t'es fier de la croix, que c'est ça? Ça ne fait pas de sens. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire? Vous êtes avec moi ce matin? Oui? Même chose pour les Juifs. Pour les Juifs, il y a cette idée-là dans l'Ancien Testament que quiconque pendu au bois, c'est une malédiction. Puis on le lit même dans Galates 3:13. Et ça dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour tous, puisqu'il est écrit, c'est une citation de l'Ancien Testament, tout homme pendu au bois est maudit. Alors, même pour les Juifs, l'idée de prendre un symbole d'une croix, c'est offensant, ça ne fait pas de sens, c'est comme si... non! Puis quand on pense aux souffrances de Christ, ben on est émerveillé de ce que Christ a pris ces souffrances-là pour nous, mais franchement, si vous avez écouté ne serait-ce qu'un film de Jésus qui dépeint un peu la croix, ben il y a des fois, on a le goût de faire ça, hein, puis on est comme « Oh non! Oh, » oh. Je vous ai déjà dit qu'à toutes les fois que je pose mon abri tempo et ça s'en vient, à toutes les fois que je rentre les clous ça de long dans la terre, à toutes les fois je fais comme « Ouch, ça me rappelle la croix ». Là, vous dites « T'es bien un pasteur, toi hein? ». Bon, c'est correct, je l'assume. Mais ça me fait mal juste de penser que ce genre de clou-là peut rentrer dans des poignets puis c'est comme « Ah, ça fait mal ». Non? Et c'est pas pour rien que l'apôtre Paul va dire la chose suivante dans 1 Corinthiens 1:18, et on l'a à l'écran, ça va dire « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » Amen. Et puis là-dedans, on voit justement l'horreur que la croix peut provoquer chez quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais à quel point cette même croix qui est horrible peut être à la fois puissance de Dieu, assurance, et peut être quelque chose de vivement précieux. Comment quelque chose d'aussi laid peut être aussi précieux. Et à travers notre série sur la croix, on va explorer un peu la profondeur du mystère, justement, de cette croix-là. Et moi, je bénis le Seigneur qu'à travers les années, on n'a pas modifié ce symbole-là pour éviter d'offenser d'autres. Vous savez, on vit dans une culture où est-ce qu'on essaie d'éliminer tout symbole ou toute chose qui pourrait peut-être offenser une moitié de personne. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Puis quand je dis une moitié de personne, c'est pas parce que je considère que des gens sont une moitié de personne, mais c'est comme, au sûr que ça pourrait froisser un petit peu, oui, on essaye de tout... rien d'offensant. Mais la croix est demeurée un symbole malgré cette offense-là. On peut se réjouir de la ténacité historique de ce symbole-là. Parce que la croix est tellement importante. Et je vous fais réfléchir en début de message avec une citation d'un certain Samuel Zwemer, qui était justement un missionnaire en Arabie, et c'est tiré de The Cross of Christ de John Stott, qui va dire la chose suivante, c'est une traduction. Si la croix du Christ est quelque chose pour la pensée, c'est certainement tout. La réalité la plus profonde et le mystère le plus sublime. On en vient à réaliser que toute la richesse et la gloire de l'Évangile se concentrent ici. La croix est le pivot et le centre de la pensée du Nouveau Testament. Elle est la marque exclusive de la foi chrétienne, le symbole du christianisme et son point de mire. Plus les incroyants nient son caractère crucial, plus les croyants y trouvent la clé des mystères du péché et de l'au-delà. Nous redécouvrons l'insistance apostolique, l'insistance des apôtres sur la croix lorsque nous lisons l'Évangile. Nous constatons que même si l'offense de la croix demeure, son pouvoir magnétique est irrésistible. Intéressant, n'est-ce pas? Plus ça semble offensant, mais plus à la fois c'est irrésistible. Et vous, peut-être vous conviendrez avec moi, avez-vous imaginé le nombre de personnes qui ont ces colliers de croix sans croire en Dieu? À quel point ce symbole-là est magnétique sans le vouloir? Est-ce qu'on peut imaginer à quel point même des non-chrétiens se font des croix sur les bras? Là, il y a des croix qui veulent dire d'autres choses, là, on se conviendra, OK? Mais quand même, on se dit, bien pourquoi? Il y a quelque chose de mystérieux dans la croix. Il y a quelque chose qui dépasse notre compréhension. Et croyez-moi, si quelqu'un me dit, moi, j'ai tout compris de la croix, bien, je lui dis bravo parce que moi, je n'ai pas encore tout compris. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est tellement profond. Il y a tellement un mystère à travers tout ça. Il y a tellement de ramifications. Il y a tellement de... Au final, on peut en être offensé parce qu'on dit, ah! Et on va répondre à une question plus tard dans la série. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas juste dit du haut du ciel, « Vous êtes pardonnés si vous croyez en moi? » Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'aller à la croix? Et la réalité, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles Jésus s'en vient à la croix. Il ne fait pas juste dire du ciel, parce qu'il a toute l'autorité de faire ce qu'il veut, hein, vous comprenez? C'est Dieu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas juste dit du ciel? Si vous croyez que j'existe, vous serez pardonnés. C'est une bonne question, hein? On va répondre à ça plus tard. Pas aujourd'hui. On met d'autres bases aujourd'hui. Mais on veut être une église qui, comme 1 Corinthiens 1 va le dire, « Or, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. » Amen. Amen. Alors, ce matin, je nous amène dans le récit de la croix. C'est-à-dire, Jésus n'a pas fait, OK, toc, 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 oui, bonjour, oui, je m'appelle Pilate. Est-ce que je pourrais être crucifié, s'il vous plaît, aujourd'hui? OK, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jésus a été livré, Jésus a été amené, et puis, à quelque part, on veut, en début de série sur la croix, de juste partager cet événement-là, de qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas Jésus qui a cogné à la porte de Pilate, mais il est arrivé toutes sortes d'injustices qu'on a de la misère à comprendre. En tout cas, que moi, j'ai de la misère à comprendre. Et on va regarder trois personnages ce matin. Le premier étant Judas. Judas avec un S. Hein? Et même dans les expressions populaires, il y a cette idée du baiser de Judas. C'est comme le baiser d'un traître. Celui qui a trahi Jésus. Et on le voit dans Matthieu 26. On l'a à l'écran. Au verset 14, 16, « Alors l'un des douze, appelé Judas l'Iscariot, alla vers les chefs des prêtres et dit, « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. 30 pièces. C'est comme si on voit que Judas est en train de négocier pour le prix. Tu sais, c'est comme, ah, oh, 25, non, c'est pas assez, 30, ah, oh, OK, on va s'entendre sur un prix. Et c'est ce même Judas qui a partagé la route avec Jésus sur les routes de Galilée à Jérusalem et qui a fait partie de ce cercle intime. On apprend dans les évangiles qu'il était le boursier, celui qui gardait la bourse, celui qui gardait l'argent sur lui. C'était comme le comptable de la gang, mais un comptable qui manquait certaines compétences peut-être ou une certaine intégrité. C'est ce qu'on apprend aussi dans l'évangile. Et puis là, ce qui arrive, c'est que Judas, une fois qu'il s'est entendu avec les prêtres, ben, il va déterminer un moment parce que lui, il sait exactement où est-ce qu'est Jésus. Dans le sens qu'il connaît ses endroits préférés, il sait où est-ce que lui et ses disciples se tiennent. Donc, un jour, il dit, ben, aujourd'hui, c'est le jour. Alors, les chefs des prêtres amènent une garnison, des soldats, et ensemble s'en vont dans ce jardin. Et puis là, imaginez la scène. Judas s'avance, voit Jésus, et la Bible dit qu'il l'embrasse. Mais c'était le signe pour que les soldats sachent qui ils devaient prendre. Un baiser d'amour, hautement, une haute trahison. Ça ne pouvait pas être quelqu'un de plus proche, ou presque pas. Peut-être un des disciples qui était un petit peu plus proche de Jésus, mais à part ça, il n'y a personne d'aussi proche qui pouvait trahir. Et finalement, ce qui est en train de se passer, c'est que Judas prend Jésus et le livre aux pharisiens, aux prêtres, à ceux qui étaient les gardiens de la religion juive à l'époque. Et c'est notre deuxième personnage, ça, ces prêtres-là. On peut passer à l'autre diapo. Et ces prêtres-là étaient jaloux, en fait. Et ils ne comprenaient pas grand-chose de ce que Jésus faisait. Mais non seulement ils ne comprenaient pas, mais ils s'y opposaient vivement. Et on va lire un texte, mais ce texte-là succède tout le reste. Parce que pendant la nuit, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est pris le soir ou la nuit, là, l'heure, on ne l'a pas. Mais pendant la nuit, il va être amené dans la cour du grand prêtre. Et puis là, il va passer la nuit là. Mais après tout ça, puis là, vous pouvez lire ça dans les évangiles. Hein, je ne vous donnerai pas tous les détails. Mais si vous lisez Matthieu, Marc, Luc et Jean, puis soyez stratégique, commencez par la fin. Vous allez être directement sur l'événement de la croix. Vous allez voir qu'il y a plusieurs détails. Et si vous ne pensez pas que la croix est le centre, posez-vous la question pourquoi chacun de ces évangiles-là le détaille et détaille les événements, la trahison, Jésus livré et la crucifixion. C'est central pour les quatre évangiles. Et puis, après toute cette espèce de simili-procès, parce qu'on va voir que dans simili, ça veut dire qu'il n'y en a pas eu de procès. Je vous apprends quelque chose. Le simili-bacon, il n'y a aucun bacon dedans. Un simili-procès, ce n'est pas un procès. Vous comprenez? C'est une façade, OK? Ça va dire le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir attaché, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Judas le livre à qui? Aux prêtres. Les prêtres font quoi? Ils le livrent à Pilate. Pilate est notre troisième personnage. Personnage qu'on va observer ensemble. Et Pilate, je vais vous donner plus de détails tout à l'heure, mais lui est comme le gouverneur qui est pogné d'un dilemme moral. Lui, sa job, c'est que la paix règne dans la ville. C'est le gouverneur romain. Mais il se rend compte qu'il y a quelqu'un devant lui qui ne mérite pas sa sentence. Mais il est pogné dans un dilemme moral. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que par conscience, je le sauve et je me ramasse avec le trouble, le tumulte dans la ville? Ou je le condamne à mort et j'achète la paix de la ville. Comprenez un petit peu le dilemme? Et vous allez voir tantôt, on va l'approfondir, puis on va voir que Pilate a vraiment essayé de se sauver de ça, de cette décision-là. Il a essayé de « je ne veux pas la prendre, cette décision-là. Je ne veux pas la prendre, cette décision-là. » Mais finalement, au final, qu'est-ce qui se passe? Il la prend, et puis voyant qu'il ne gagnait rien, que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau. se lava la main en présence de la foule. Il le fait de façon publique. Et il dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous qui cela regarde. » Alors Pilate le relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Judas le livre aux prêtres. Les prêtres le livrent à Pilate. Et Pilate les livre aux Romains qui allaient crucifier Jésus. C'est une histoire, honnêtement, c'est la nature humaine dans sa plus grande expression, dans sa plus laide expression. Et quand on regarde juste les différents personnages, puis là, on va regarder un peu, on va faire des comparaisons entre ces trois personnages-là pour se rendre compte que c'est facile de lire la Bible en disant « Ben voyons donc, Pilate, mets tes culottes, libère-le. » Ou « Voyons donc, Judas, pourquoi est-ce que tu voudrais 30 pièces d'argent de plus? » Ou le Sanhédrin qui, eux, vont condamner sans même entendre ce que l'autre a à dire. À quel point on est capable d'être comme ça, nous autres aussi, de se faire un jugement sans juger vraiment ce qui se passe et l'histoire. Et on se rend compte que, oh, on aurait pu être un personnage de cette histoire-là. Bon, là, vous dites, ben non, j'aurais jamais fait ça. Correct? Pierre aussi a dit ça, hein? Jamais! Je vais te renier. Jamais. Les autres, oui, mais pas moi. Bon, en tout cas, vous pouvez prendre la posture de Pierre, pas de problème. Mais je veux qu'on regarde ensemble parce que le péché de Judas dans cette histoire-là, ben oui, il y a l'idée d'une trahison, mais il y a aussi l'idée de l'avarice, l'idée de l'amour de l'argent. Hein, on apprend un peu plus tard que finalement, il se prenait un peu d'argent directement dans la caisse commune. Mais qu'encore une fois, cette espèce d'amour de l'argent l'a même poussé à livrer Jésus. Les pharisiens, puis on l'apprend, c'est Ponce Pilate que lui, il sait déjà, il dit, « Garde, je sais que vous l'amenez juste par jalousie, guys, là, je connais ce que vous faites, là, c'est évident. » Mais le péché des pharisiens était cette jalousie-là. Cette jalousie-là envers Jésus qui faisait des miracles, envers Jésus qui enseignait des choses que ça coinçait un peu, ça grinçait. Et Ponce Pilate, il y avait une partie d'ambition. Il y avait une partie aussi peut-être de lâcheté. Mais aussi en arrière de ça, la peur de déplaire. Oh, ça c'est un grand mot. Peut-être que c'est un mot auquel on s'attache chacun d'entre nous. La peur de déplaire. Et au final, ce qu'on se rend compte, c'est que ces trois personnages-là vivent dans l'insécurité. Et leur insécurité parle tellement fort que le péché va être dévoilé. Dans le sens que cette insécurité-là de Judas, de savoir est-ce que enfin Jésus va nous libérer des Romains, bien, cette insécurité-là l'a poussé à le livrer pour 30 pièces d'argent, pour qu'il puisse se révéler et battre tout le monde. L'insécurité des pharisiens par rapport à leur rôle, leur position, à ce qu'ils avaient comme autorité, les a poussés à faire un simili-procès ou aucun procès. Et l'insécurité de Pilate, vous savez, c'était quoi l'argument final que Pilate a fait, « OK, je vais le crucifier? » C'est quand la foule s'est adressée à lui en disant, « Tu n'es pas un ami de l'empereur si tu ne le crucifies pas. » Ça a été l'argument final. Je fais comme, « Oh, OK, là, il y a quelque chose là-dedans de... Si je ne suis pas un ami de l'empereur, mon rôle est menacé. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas capable de tenir le contrôle de ma propre ville. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? » Et ces trois-là vont faire la même chose. Hein? Ils vont trahir, mais pelleter vers quelqu'un d'autre. Hein? Au Québec, pour ceux qui sont nouvellement arrivés, on peut utiliser le terme « pelleter » pour d'autres usages. Parce qu'on aime tellement pelleter qu'on l'utilise dans notre vocabulaire. Alors, on peut dire « pelleter un problème vers quelqu'un d'autre ». On va dire une expression « pelleter par en avant ». C'est-à-dire que tu peux pelleter ta cour, faire un gros tas de neige, mais pelleter par en avant, c'est de ne pas se rendre compte que si tu fais un gros tas de neige devant ta voiture, il va falloir que tu repelles une deuxième fois ce gros tas de neige-là pour partir. Pelleter par en avant, c'est dire « ah, j'ai pas de problème, on va pelleter ça, oh, ça va se régler plus tard ». Mais Judas, qui probablement n'a jamais pelleté de neige de toute sa vie, lui a décidé de dire, « Regarde, je trahis Jésus, mais je vais pelleter vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va s'occuper de lui. » Et les pharisiens ont fait la même chose. Ils ont pelleté le problème Jésus vers Pilate. Et Pilate était comme le dernier dans la chaîne. Et lui, il était pogné avec la décision. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose d'intéressant. C'est que c'est probablement cet événement-là et tout ce qui a mené une injustice complète. Il ne peut pas y avoir plus injuste que ça. Je vous explique. Imaginez une personne qui n'a jamais péché, qui est parfaite, qui est vendue pour 30 pièces d'argent. C'est cheap un peu, hein? C'est pas comme s'il avait dévoilé tous ses trésors. Est-ce que Dieu, Jésus, était digne d'être acheté ou vendu pour tout l'argent du monde? Ben non, même tout l'argent du monde n'aurait pas été nécessaire devant la grandeur, devant la perfection du Fils de l'homme venu sur terre, le Fils de Dieu venu sur terre. Mais pour 30 minces pièces d'argent, est-ce que vous comprenez un petit peu cette injustice-là? Ça fait mal, ça fait mal. Vous savez, quand je vous parlais d'un simili-procès, on arrive à nos pharisiens. Bien, les pharisiens ont fait un procès qui défaisait toutes leurs règles internes. C'est un procès bâclé, c'est-à-dire que Jésus, de un, était déjà condamné avant même que le procès ait lieu. C'était déjà décidé d'avance. Ça va? Il y avait la présence de faux témoins, c'est-à-dire que c'était des témoins qui étaient payés pour donner un faux témoignage. Ça peut-tu être plus injuste que ça? Oui, on continue. Il n'y avait aucune défense qui a été permise pendant le procès. Et le tribunal a siégé de façon illégale la nuit, ce qui ne devait jamais se faire, mais ils ont brisé leurs propres règles pour dépêcher l'affaire. Et finalement, le grand prêtre force Jésus à dire qu'il est le Messie pour le condamner d'avoir dit qu'il est le Messie. OK? Et dans toute décision du Sanhédrin, ils devaient être jugés au Sanhédrin et non pas dans la cour du grand prêtre. C'était leur règle. Donc, ils ont bousillé toutes leurs règles pour s'assurer que personne ne puisse venir entraver le projet qui était déjà planifié d'avance, celui de tuer Jésus. Comprenez-moi bien encore. Jésus, le Fils de Dieu, parfait en toutes choses, qui n'a jamais commis de péché, se ramasse devant un procès qui est en vice de procédure, qui est en vice de contenu, qui est dans le mensonge complet. Et puis c'est comme ça qu'on traite le Fils de Dieu qui vient sur terre. C'est injuste. C'est profondément injuste. Et ensuite, pèle le problème à Pilate. Et Pilate fait quoi? Et là, peut-être que des fois, on voit des films de Jésus, puis on dit « Ah oui, OK. » Puis des fois, on associe la vérité biblique de tous les événements avec ce qu'on voit plutôt que ce qu'on lit. Bon. D'ailleurs, tout film sera toujours imparfait parce qu'il ne pourra jamais donner tous les détails de tous les évangiles, OK? Mais si vous voulez avoir vraiment vous amuser à comprendre la position de Pilate, et je n'aurais pas voulu être à sa place, allez lire Jean 19 et vous allez être capable d'avoir vraiment quelque chose de... Vous voyez les dynamiques, mais on se rend compte que Pilate va sortir trois fois devant la foule. Alors, premièrement, les prêtres lui amènent Jésus et il pose des questions directement. « Qu'est-ce que tu as fait? » Fait que Pilate sort devant la foule et va dire « Je ne trouve rien en lui. » Et c'est à ce moment-là qu'il va dire, il y a une habitude que j'ai ou que les gouverneurs romains ont, c'est que à toutes les Pâques, si un condamné à mort, je vais donner deux choix et on pourra en libérer un. C'est comme un geste de grâce de Rome envers le peuple juif. Donc lui, il se dit, regarde, il ne trouve rien. J'ai un condamné notoire à côté de lui. Ben, ils vont libérer celui qui est innocent. Alors, Pilate amène à la foule Jésus et Barabbas. Qui voulez-vous que je libère? Barabbas, Barabbas. Alors là, il est comme, OK, crap, ça ne marche pas. Il retourne à l'intérieur du prétoire. Il fait fouetter, il fait mettre une couronne d'épines. Et quand il a fini de faire ça, dans sa tête, probablement qu'il se dit, « Ben regarde, il est innocent. » Fait que là, j'ai assouvi un petit peu le power trip des prêtres, là, en y donnant une bonne leçon. Mais là, on va revenir avec Jésus. Il ressort une deuxième fois devant la foule. Il dit, « Je ne trouve aucun motif de le condamner. » La foule répond, « Crucifie-le! Crucifie-le! Puis là, ça commence à monter. Quand je vous dis qu'il a peur de perdre la paix, là, c'est que là, c'est pas juste genre, il n'y avait pas juste un gars à l'arrière qui a levé sa main. Oui, à l'arrière, je suggère de le crucifier. Non, la foule embarque, puis ça devient crimsement qu'il pense qu'il va avoir une émeute, puis que la paix, ça va être un tumulte dans toute la ville. Est-ce que vous imaginez un petit peu le crucifie-le? Jésus est là, il n'a rien fait, hein? Vous comprenez? Alors Jésus le rentre en dedans avec lui encore dans le prétoire. Il pose des questions sur le Fils de Dieu. Qu'est-ce que la vérité? Tu sais, des petites questions qu'on peut voir à travers les évangiles. Il commence à jaser avec Jésus, mais Jésus, je vous avoue, il est peu bavard. Puis vous allez comprendre plus tard pourquoi. Alors là, après lui avoir posé quelques questions, sa femme, puis là, on ne sait pas c'est à quelle sortie de là-dedans, sa femme dit, « Hey, j'ai eu des mauvais rêves, j'ai souffert hautement à cause de ce juste-là, n'ai rien à faire avec lui. » Il ressort pour une troisième fois parce qu'il n'a encore rien trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, la foule se met à dire, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. » Et après trois fois, là, c'est comme, il est en train de perdre le contrôle. Et puis c'est après cette troisième fois-là qu'il va finalement l'amener au tribunal, puis il va être condamné, puis ensuite il va être crucifié. Est-ce que vous pouvez remarquer, sentir l'injustice de ce qui est en train de se passer là? Même Pilate, qui est un Romain qui n'est pas né de nouveau, OK? Il sait qu'il n'y a absolument rien de mal dans cet homme-là. Il sait que c'est juste... Mais malgré tout, il fait le choix de dire, « OK, je vais choisir mon poste, je vais choisir la paix et on va se débarrasser du problème. » Petite note astérisque, ce n'était pas Jésus le problème. C'était le cœur humain. C'était la jalousie. Mais là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Jésus a subi un procès qui n'était pas un procès et il a subi un deuxième procès qui n'était pas un procès. Injustice complète, l'événement de la croix. Là, vous regardez votre croix dans votre cou, vous dites, ouf, c'est du lourd, hein? C'est ouf, il y a du stock là-dedans, il y a quelque chose. Et c'est très bien comme ça. Et ce qu'on voit, c'est que lorsque Jésus est en contact avec chacune de ces trois personnages-là, quand Judas va s'approcher pour lui donner ce fameux baiser de Judas, Jésus va lui dire « Fais ce que tu as à faire. » Quand les pharisiens vont s'approcher et puis vont lui poser toutes sortes de questions pour le piéger, « Est-ce que tu es le Messie? Dis-nous-le! » Jésus va dire « Vous le dites? » « Il l'a dit! » Vous comprenez? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais Jésus, après ça, va être très, très... Il n'entrera pas dans l'argumentaire de l'argumentaire. Ouais, c'est très sobre, avec peu de mots. Et quand il va être avec Pilate, très peu bavard également. Très peu bavard. Et honnêtement, ça fait mal. Ça fait mal une injustice comme ça. Tu sais, ça ferait vraiment un bon film. Ça ferait vraiment un bon film. Surtout qu'on connaît la fin, hein? Qu'on connaît qu'il ressuscite, mais c'est toute une histoire tellement injuste pour quelqu'un qui, en plus, méritait tellement d'autres choses. Tu dis, hey, vivre des procès comme ça quand tu as fait le mal à côté, à gauche, à droite, tu dis, OK, bon, c'est injuste, mais tu sais, il l'a labouré un petit peu, là, tu sais, il l'a travaillé un petit peu, mais là, pas du tout, zéro. Il était parfait. Et vous savez quoi? Il y a des mauvais raisonnements qui sont dans la tête de chacun de ces trois personnages-là et qui les ont... Tu sais, vous savez qu'on fait des mauvais choix, on est toujours bon pour rationaliser notre mauvais choix. Hein? On se trouve toujours une raison noble de faire un mauvais choix. Oui? OK. C'est bon, il y a juste moi. Presque. Mais Judas, dans sa tête, il disait, « Si je le livre, j'espère qu'il va vraiment... se lever comme le roi d'Israël puis va jeter les Romains dehors. » Pour lui, il accélérait le processus. C'était sa façon rationnelle de justifier l'injustifiable. De justifier l'injustifiable. Les pharisiens, lorsqu'ils ont accusé Jésus puis qu'ils l'ont condamné, Eux, ils avaient peur que les Romains détruisent leur nation s'il y avait du tumulte, puis tout ça, puis si lui venait. Puis... Fait que dans leur cœur, il y avait cette idée-là, j'espère que notre nation va être saine et sauve. Là, il était en train de prendre une décision pour le bien de la nation et faire quelque chose de complètement injuste. Et Pilate, ben, on le devine un peu, cette idée que j'espère que la paix dans la ville va régner pour Rome et j'espère que mon poste ne sera pas un siège éjectable. Qu'est-ce qu'il gagne? Ben, Pilate gagne de l'argent. Les pharisiens gagnent du pouvoir. Et Pilate maintient son autorité et finit ce dilemme moral-là dans lequel il est. Et là, vous dites, « Ah, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est injuste. Jamais j'aurais fait ça. » Je vais vous poser la question qui tue. Et là, elle est vraiment bien placée, là, la question qui tue. Est-ce que je suis comme Judas qui fait semblant d'aimer Jésus et l'embrasse pour le trahir? Et là, je vais la reformuler de façon moderne un peu. Est-ce que j'aime Jésus juste pour ce qu'il m'apporte, mais que je suis prêt à le balancer aussitôt que ça ne fonctionne pas comme je le souhaite? La question qui tue des pharisiens. Est-ce que je suis comme le Sanhédrin qui s'empresse de juger et condamner pour s'assurer de sauver sa position? Question qui tue. En d'autres mots, est-ce que ma place et mes opinions sont plus importantes que celles de Dieu? Est-ce que je condamne toute personne qui n'a pas les mêmes opinions que moi? Est-ce que vous aimez mes questions qui tuent? Ils ont tué les... Ça a tué les mouches complètement. La question qui tue par rapport à Pilate, c'est est-ce que je suis comme Pilate et que je me lave les mains quand la situation devient compliquée? Puis l'application moderne, c'est « Est-ce que j'achète la paix en toute occasion plutôt que de vivre selon ma conscience et mes convictions en Jésus? » Ce serait une bonne question à se poser, ça, en lien avec ces personnages-là. Puis peut-être qu'il y a un de ces personnages-là avec lequel vous vous associez plus naturellement que d'autres. Parce que vous savez quoi? Si on regarde le cœur de Judas, comment est-ce qu'on pourrait qualifier le cœur de Judas? Moi, je serais prêt à dire qu'il est pécheur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il est coupable ou non coupable? Coupable. On est prêt à dire ça? Là, vous avez peur, je ne sais pas pourquoi. Là. Je ne sais pas si vous avez peur que je vous piège. Là. J'ai-tu l'habitude de vous piéger? Non. Si je regarde le cœur des pharisiens, comment est-ce qu'on pourrait qualifier le cœur des pharisiens? Coupable, merci. Pécheur. Puis si je regarde le cœur de Ponce Pilate... Coupable! Toute la gang! On est devant un événement qui est probablement le plus injuste de toute l'histoire de l'humanité, qui implique une tonne de monde. Une tonne de monde. On a une trahison, on a un procès tout croche, on a des luttes de pouvoir, on a une condamnation qui n'a pas d'allure, on a une humiliation publique, on a des supplices, de la torture, on a la meurtre d'une personne qui n'avait jamais péché. C'est profondément injuste. C'est profondément injuste. Puis l'idée, c'est que la croix, aussi laid que ça puisse paraître, on est devant un événement qui nous condamne tous. Qui nous condamne tous, puis on pourrait facilement se familiariser ou s'identifier avec l'une de ces trois personnes-là. Peut-être que si on n'avait pas trahi Jésus avec un baiser, peut-être qu'on aurait été dans la foule en disant « Libère Barabbas ». Peut-être qu'on aurait été... dans les membres du conseil, de dire « Hey, il faut vraiment sauver notre nation, il faut le tuer. Ah, il faut se débarrasser de lui, c'est sûr. » Puis peut-être que l'insécurité dans nos cœurs aurait fait en sorte qu'on aurait embarqué dans la pression du groupe puis on aurait dit « Ouais, c'est vraiment mieux comme ça. » Ah, eux autres, ils pensent ça. « Ouais, OK, on le fait. » La pression du groupe. Vous savez, l'avarice, la jalousie, la lâcheté, l'insécurité qui nous fait prendre de mauvais choix font toute partie de notre parcours et notre cœur humain pécheur. Puis j'aimerais vous dire que c'est notre péché, ce sont nos péchés qu'il a portés sur la croix. On est coupable. On est coupable. Peut-être que vous dites « Ah, moi, j'aurais jamais fait ça. » je ne fais pas le mal, moi, mais je m'en lave les mains. Mais au final, la réalité, c'est que si on ne reconnaît pas que c'est nos péchés qui ont cloué Jésus à la croix, de quoi est-ce que Christ vous a-t-il libéré? Si ce n'est pas nos péchés qui l'ont porté sur la croix, mais pourquoi qu'on demande pardon? Pourquoi est-ce qu'on veut que Christ nous libère de nos péchés? Là, je vais vous lire un texte qui est très, très intéressant dans Romains 3. Et je veux que vous y portiez attention. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché. On arrête ici. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, hey, « Moi, je suis passé par la porte de droite. Moi, je n'ai pas péché. » Il n'y a pas de distinction. On est tous sur le même pied d'égalité. Est-ce qu'on peut mettre le verset? Est-ce qu'on l'a à l'écran? Romains 3. On n'a pas ça à l'écran. Wow! Le verset le plus important, je l'ai oublié. Je suis pécheur et coupable. OK. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Et ça, ce qu'on apprend là-dedans, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour être une victime expiatoire de nos péchés. Fait qu'il faut comprendre que ce sont nos péchés qui l'ont amené à la croix. C'est nos péchés à nous. Alors, la question qui tue numéro 4. Qui a vraiment tué Jésus? Qui a tué Jésus? Est-ce que c'est les Romains et Pilate qui l'ont tué? Peut-être. Est-ce que c'est les Juifs et les prêtres qui l'ont tué? Ouais, ça fait du sens. Est-ce que c'est vous et moi qui l'avons tué? Ouais. Est-ce que c'est le Père, Dieu le Père, qui l'a tué? Oui. Parce que c'est le Père qui a envoyé son Fils pour être cette victime expiatoire. Là, on se rend compte que c'est pas mal toutes ces bonnes réponses-là. Puis là, l'idée du Père, je comprends que c'est un peu ambigu, puis on va expliquer ça dans un autre message. On n'a pas le temps de tout expliquer ce matin. Mais j'aimerais vous suggérer qu'on peut dire oui à toutes ces réponses, mais trois petits points. Mais trois petits points. Là, écoutez-moi bien. Dans Jean 10, on apprend que personne ne peut dire, personne n'a vraiment pris sa vie parce que Jésus l'a donné volontairement. Dans Jean 10, Jésus a dit, « Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'enlève car je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Alors, est-ce que c'est toutes ces personnes-là qui ont tué Jésus? La réponse est oui. Mais en même temps, est-ce que vous pensez vraiment que Jésus n'aurait pas pu se sortir de cet épisode-là du jardin avec Judas? Dans Matthieu, on apprend qu'il va dire quelque chose genre, « Tu ne penses pas que j'aurais pu appeler une myriade d'anges qui seraient venus me sauver d'ici? » Est-ce que vous pensez vraiment que Jésus n'aurait pas pu sauver des pharisiens et de leurs conseils de méchants, tout ça? Est-ce que vous pensez vraiment que Jésus n'aurait pas été capable de convaincre Pilate qui était vraiment innocent et d'être libéré? En fait, le cœur humain est tortueux plus que tout. Mais malgré tout, c'est Jésus qui a décidé de se livrer. C'est Jésus qui a décidé d'aller à la croix. Et ça, c'est l'expression la plus extraordinaire de l'amour face à une injustice profonde. Parce que si Jésus avait donné ce que chacun de ces personnages-là méritait, ça n'aurait pas été beau. Mais Jésus a été jusqu'au bout. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Jésus a été jusqu'au bout. Et Jésus a accepté de mourir sur cette croix-là pour notre salut. Alors, la grande question, parce que j'ai beaucoup de questions aujourd'hui, je m'excuse. La question qui jaillit dans moi, à l'intérieur de moi, c'est la suivante. Comment une telle injustice peut-elle à la fois nous condamner et nous libérer? Parce que c'est ça le mystère de la croix. c'est que la croix nous révèle que si on n'avait pas péché, Jésus ne serait pas monté sur la croix. Et on se rend compte que c'est notre péché qui l'a amené là. Donc, la réalité de la croix nous amène à comprendre que c'est nous, à cause de nos péchés, que Christ a été crucifié. Mais à la fois, ce même événement-là de la croix est le symbole même du christianisme parce qu'il nous libère de cette même faute qui aurait pu être la nôtre. Cette même faute qui est attachée à nous. Ce même cœur humain, pécheur et coupable, qui s'attache à nous. Et ça, c'est la profondeur du mystère. Et là, je ne l'ai pas tout résolu. Hein? On aborde, on effleure, là. Hein? C'est la profondeur du mystère de la croix et de l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et à travers la série, on va essayer d'aller plus loin là-dedans. Vous savez, il n'existe pas de bonne nouvelle s'il n'y en a pas de mauvaise. Qu'est-ce que je veux dire? Une bonne nouvelle vient souvent parce qu'on est en train de vivre quelque chose de moins le fun. Si vous dites « Hey, wow! Il y a quelqu'un qui a prié pour moi, j'ai été complètement guéri! » Ben, si vous n'aviez pas été malade, vous n'auriez pas eu de bonne nouvelle. Comprenez ce que j'essaie de vous dire, là? Tu sais, je fais un parallèle. Mais c'est la même chose avec le pardon de Jésus. C'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle du pardon de Jésus s'il n'y a pas premièrement une mauvaise nouvelle. Mon cœur humain est pécheur et coupable. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il n'y a pas d'évangile qui sauve s'il n'existe pas de péché qui nous condamne et qui nous sépare de Dieu. Il n'y a pas de liberté en Jésus s'il n'existe pas l'esclavage que le péché provoque. Je vais vous lire un texte, puis j'espère que je ne l'ai pas manqué dans mon PowerPoint. Dans 1 Jean 1. Est-ce qu'on a ça à l'écran? Et je pense que ce passage-là résume un peu ce que j'essaie de vous dire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si on peut faire semblant que nous autres, on est parfaits, qu'on l'a l'affaire. Mais quand on fait ça, on est en train de dire, Dieu, tu es allé à la croix pour absolument rien. Tu n'avais pas besoin d'y aller pour moi. Moi, je suis clean. Et c'est encore une plus profonde injustice que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais lorsqu'on est capable de dire, hey, regarde, j'aurais pu faire ce qu'ils ont fait. Les péchés que ces trois personnages-là, puis j'aurais pu en nommer d'autres, hein, ces trois péchés-là, ça sent mon cœur pécheur, ça sent mon cœur humain, ça sent le profondeur de la distorsion qu'il peut y avoir parfois dans mes pensées. Mais cette même parole-là va nous dire, si nous confessons, si nous reconnaissons nos péchés, si on reconnaît que ce sont nos péchés qui ont amené Christ à la croix, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Alors ce matin, mon but, ce n'est pas de vous dégoûter par la croix parce qu'il y a une bonne nouvelle au bout. Il y a vraiment une bonne nouvelle. Mais ce matin, je veux éviter de faire ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire de parler de la croix bien vite pour après ça juste aller à la victoire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Des fois, on dit « Ah, mes péchés l'ont cloué, mais merci Seigneur, j'ai la victoire! » Ben, il y a des fois où est-ce qu'il faut se rendre compte que la croix qu'on porte dans notre cou, elle veut dire quelque chose, puis que notre péché est assez important aux yeux de Dieu pour qu'il dise « Ça vaut la peine que j'aille mourir sur cette même croix-là, que je souffre pour chacun d'eux. » Alors, l'occasion ce matin, c'est une occasion de contempler l'œuvre de la croix, de contempler cette croix-là, de saisir l'injustice de la croix. Puis honnêtement, c'est correct d'en être choqué. Choqué dans le sens, c'est comme « Oh, ça fait mal! » C'est l'occasion ce matin de vivre cette douleur, de savoir que ce sont nos fautes qui ont conduit Jésus à cet endroit. Mais en même temps, plusieurs d'entre vous, ça fait longtemps que vous avez expérimenté cette nouvelle naissance en Jésus, c'est-à-dire que vous avez reconnu que vous étiez pécheur. Vous avez reconnu que sans l'aide de Dieu, il n'y avait pas d'espoir. Et vous viviez dans cette nouveauté de vie, avec cette liberté, avec ce pardon qui vient du ciel. Bien, si c'est votre situation, c'est une occasion de remercier Dieu pour ce don si grand. ce don si grand. Honnêtement, je suis reconnaissant que ce n'est pas moi qui ai eu besoin d'aller sur la croix, mais que c'est Christ qui a été à ma place. Je ne suis pas certain que j'aurais été si doux avec Pilate, avec les pharisiens, ou même avec Judas. Je suis reconnaissant que ce soit Christ qui a emprunté ce chemin-là.